La chronique d'aujourd'hui propose d'analyser la place historique occupée par les Juifs de Pologne. En effet, les Juifs de Pologne ont formé la plus grande communauté juive d'Europe et nous allons brosser leur histoire entre le Moyen-Âge et la fin des années 1930.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les premières traces historiques des communautés juives en Pologne remontent au XIe siècle. Ce sont des juifs ashkénazes qui parlent yiddish. Et effectivement, ils occupent une place importante dans ce qu'on a appelé le royaume de Pologne-Lituanie. Ce royaume est plus important que la Pologne actuelle, puisqu'il forme une véritable grande puissance englobant les pays baltes, une partie de la Biélorussie, une partie de l'Ukraine d'aujourd'hui et également une partie de l'Allemagne. Et donc, il y a un véritable grand royaume de Pologne dans lequel vit la communauté juive. Nous la connaissons sur le plan des effectifs. À la fin du XVe siècle, 24 000 juifs vivent en Pologne-Lituanie et il y a véritablement une croissance extrêmement importante qui a lieu tout au long des siècles de la fin du Moyen-Âge et de la période moderne. Ils sont estimés à 100 000 personnes sur 8 millions d'habitants à la fin du XVIe siècle, 210 000 vers 1650, 375 000 en 1720 et 750 000 en 1764, ce qui représente environ 5% de la population du royaume de Pologne. Ce sont des communautés qui ont un rôle économique important. En effet, dans la mesure où l'Église interdit le prêt à intérêt, eh bien, ce sont souvent de riches juifs polonais qui prêtent à la fois à la couronne, à la fois à une partie de la noblesse polonaise, mais aussi à des communautés religieuses catholiques qui ont besoin d'argent. Mais évidemment, n'imaginons pas que toutes les communautés juives en Pologne sont riches. Il y a des communautés pauvres, de petits artisans, de petits commerçants qui vivent, bien sûr, chichement. Ce qui est important à noter, c'est que le pouvoir royal en Pologne a donné un droit d'autonomie et d'administration aux communautés juives, suite en particulier à des arrêts du Conseil des Quatre Pays et du Conseil de Lituanie. Et l'ensemble de ces décrets ont été regroupés dans la charte du roi Sigismond II en 1551. Donc, les communautés juives polonaises ont obtenu un droit, je dirais, d'autogestion et une certaine autonomie au sein du royaume. Et il y a même des petites communes en milieu rural qui sont véritablement à dominante juive. C'est l'organisation de ce qu'on appelle les shtetl. Alors, cet âge d'or, puisque certains historiens ont utilisé le mot d'âge d'or pour les juifs de Pologne à ce moment-là, ne doit pas quand même occulter qu'il y a un antisémitisme. Un antisémitisme lié à la fois à une tradition religieuse chrétienne qui voit dans les juifs le peuple déicide, mais aussi le fait que, en particulier, on reproche aux juifs finalement une certaine richesse, en tout cas pour ceux qui sont les grands prêteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, à la fois âge d'or, à la fois une vraie protection de la part de l'autorité royale, mais également un antisémitisme qui peut frapper et gêner l'assimilation de ces communautés juives polonaises. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le sort des communautés juives de Pologne dépend beaucoup de quel État ils vont dépendre. C'est-à-dire que la Pologne va être partagée en trois. L'Empire russe, l'Empire des Habsbourg et la Prusse vont successivement, en 1772, 1793 et 1795, partager le royaume polonais. Et selon que vous êtes un juif administré par l'Empire russe, par l'Empire des Habsbourg ou par la Prusse, eh bien votre situation va effectivement être modifiée. Globalement, la situation est plus difficile dans le cadre russe que dans le cadre, par exemple, de l'Empire autrichien. L'empereur Napoléon va redonner une partie de cette liberté polonaise avec le Grand-Duché de Varsovie, et les Juifs qui vont vivre dans ce Grand-Duché de Varsovie vont bénéficier également d'une reconnaissance officielle par le pouvoir, un peu à l'image de ce qu'avaient connu les Juifs français en 1791. Mais le Grand-Duché de Varsovie ne va durer que le temps de l'Empire napoléonien. En 1815, il y a un quatrième partage de la Pologne. Les deux tiers de la Pologne avec Varsovie sont confiés à l'Empire russe. La Galicie au sud va être administrée par les Habsbourg. Et à l'ouest, eh bien, le royaume de Prusse va récupérer la Poznanie et la Poméranie. Et là, selon effectivement les trois États, eh bien, le sort des Juifs sera extrêmement différent. D'une part, vous avez en Russie le temps des pogroms. Les Juifs vont être des sujets de seconde zone et il y a dans la Pologne russe des pogroms qui sont organisés en particulier en 1881 à la suite de l'attentat qui a coûté la vie au tsar Alexandre II et également une autre vague importante de pogroms en 1903 et en 1906. D'ailleurs, une partie des Juifs de Pologne vont être extrêmement attirés par les théories sionistes, c'est-à-dire les théories qui prônent la création d'un État d'Israël en Palestine, parce que ce serait pour eux l'occasion éventuellement de vivre mieux que dans la partie russe de la Pologne, où les communautés juives sont tout de même assez régulièrement persécutées. Côté autrichien et côté prussien, puis côté allemand, après la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871, le sort des Juifs est différent. Les Juifs sous administration des Habsbourg obtiennent une égalité juridique en 1868, c'est-à-dire quelques mois après la proclamation de ce qu'on appelle l'Empire austro-hongrois, la monarchie dualiste. Et quant à l'Allemagne, elle accorde une égalité de droit à tous les Juifs de l'Empire en 1870. Donc, il y a indéniablement une différence entre être juif polonais sous administration des Habsbourg, sous administration allemande, et sous l'administration des Romanov. Là encore, il ne s'agit pas d'idéaliser. Il y a, par exemple, dans la partie habsbourgeoise, en Galicie, une tendance à un antisémitisme, c'est vrai. Mais la protection est réelle de la part des autorités impériales, et François-Joseph, parlant des Juifs en général qui vivent dans son empire, parle de « mes Juifs ». Et d'ailleurs, il bénéficie d'une très grande popularité auprès des Juifs de l'Empire et en particulier des Juifs polonais de Galicie. À la suite de la Première Guerre mondiale, la Pologne se reconstitue comme État. Et désormais, vous avez environ 3 300 000 Juifs qui vivent sur le territoire polonais. Or, il faut là aussi distinguer dans cette histoire de la Nouvelle-Pologne deux périodes. Jusqu'à la mort du maréchal Joseph Piłsudski, qui est le père de l'indépendance polonaise et qui décède en 1935, les Juifs bénéficient d'une relative neutralité de l'État, ce qui n'empêchera pas évidemment le développement toujours d'un antisémitisme populaire en Pologne. Mais après la mort du maréchal, dans ce qu'on appelle le régime des colonels polonais, eh bien, il y a un antisémitisme officiel qui voit le jour. En 1938, par exemple, on va établir dans les universités polonaises des quotas interdisant une partie des jeunes juifs d'étudier dans les universités de la Pologne, ces quotas visant à réduire la place des étudiants juifs. Ces lois de 1938 annoncent effectivement un tournant très clairement antisémite. Mais évidemment, le pire est à arriver, parce que l'invasion allemande de septembre 1939 va provoquer une politique de plus en plus violente, renforcement des ghettos, et puis, bien sûr, vous le savez, à partir de 1941, la déportation systématique et la destruction physique des Juifs, non seulement de Pologne, mais de l'Europe occupée. Les communautés polonaises, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont quasiment disparu, puisque plus de 3 millions de Juifs polonais sont morts durant la période de la Shoah.